du jamais vu, affirme David Duval.
On a quand même un nombre record de ports en attente. On n'a jamais eu ce nombre-là, mais on ne l'a jamais eu de moitié. C'est trois fois qu'est-ce qu'on a eu déjà au maximum. Et je me rappelle, dans certaines périodes comme celle-là, les producteurs trouvaient ça extrêmement difficile. Là, je vois que les producteurs, c'est tough, mais ils sont capables de le prendre. Mais c'est sûr que la période d'été va être un enjeu crucial pour les producteurs. Parce que une période d'été avec des ports lourds, ça ne fonctionne pas. Ça devient extrêmement nuisible pour le producteur, pour le port, pour le transport, pour la chaîne d'abattage. Tout va se trouver à être impacté. Alors, il faut arriver à régler ce problème-là avant la période d'échalage.
Le président des éleveurs de porcs du Québec brosse un tableau inquiétant. Le nombre de porcs en attente n'est pas le seul problème. Il y a par exemple les coûts de production qui actuellement explosent. Un tour d'horizon avec David Duval a commencé par le moral des éleveurs.
Depuis le début de la COVID, le moral, il y a des hauts et des bas. Je dirais que malgré les porcs en attente, qui est le principal souci des producteurs, la fin d'année, le début de l'année, il y a une autre tuile qui est arrivée sur la tête des producteurs et c'est l'augmentation au niveau des coûts d'alimentation là, qu'on regarde au niveau du principalement du soya, mais du maïs aussi. Alors, c'est vraiment une autre brique qui leur arrive sur la tête parce qu'en plus d'avoir des porcs en attente que tu es obligé de garder plus longtemps dans tes bâtiments, que tu ne reçois pas l'argent pour la vente de ces animaux-là dans les périodes que tu devrais le recevoir, ça donne un coup dur sur les liquidités des producteurs.
Jusqu'à maintenant, on a réussi, entre les producteurs de porc et les abatteurs, vous avez réussi à ne pas procéder à des abattages massifs. Et ça sera possible encore cette fois-ci?
Bien, on l'espère bien. On l'a toujours dit depuis le début. Ça ne fait pas partie de mes plans. Et si ça le serait, ce serait le numéro Z au niveau de ce plan-là. Mais on l'a toujours en tête en disant qu'il ne faudrait pas arriver là et comment ça fonctionnerait. Mais on fait tout ce qui est en notre possible, autant au niveau des producteurs qui ont été très, très solidaires, imaginatifs, créatifs au niveau de comment on arrive à entasser. Je dis entasser, c'est plutôt... C'est beaucoup de logistique. On ne vide plus nos bâtiments comme on les vidait. On lave beaucoup plus rapidement. Alors, ça amène des problèmes de biosécurité quand même, passablement. Ça amène d'autres sortes de problèmes là, au niveau de transfert d'animaux et ainsi de suite. Mais on arrive quand même à avoir ces animaux-là qui restent ici. On a fait aussi des détournements d'animaux vers les États-Unis, des jeunes porcelets, tout près de 25 000 porcelets qui auraient été transférés vers les États-Unis. C'est pas autant qu'on aurait espéré. Il y a des porcelets aussi qui ont été placés en Ontario. Alors, je dirais qu'on n'a pas encore le spectre de l'euthanasie d'animaux. La période d'hiver aussi nous aide parce que ça amène un climat à l'intérieur des bâtiments qui est acceptable. C'est pas des grosses chaleurs. Alors, c'est sûr que notre objectif, c'est vraiment d'arriver vers la fin mai avec une réduction notable au niveau du nombre de porcs en attente.
Justement, les porcs en attente, ça veut dire beaucoup de porcs qui dépassent le poids habituel pour la mise en marché. Ça influe, là, ces porcs plus lourds, ça influe sur la structure de prix?
Oui, bien, c'est sûr que les porcs augmentent considérablement au niveau du poids. On est rendu avec un poids moyen aux alentours de 122 kilos là, pour le Qualité Québec, alors que d'habitude, on est aux alentours de 107-108 kilos. C'est que ça augmente la quantité d'aliments que ces animaux-là consomment, parce que quand ils arrivent à des poids comme ça, la conversion alimentaire explose, le gain moyen quotidien diminue. Alors, c'est tout près de 65 kilos d'aliments qui est consommé en plus par porc. C'est le prix. Bien, le prix a chuté vers la fin de l'année. Encore au début de l'année, pendant une période de l'année, c'était relativement bon. Vers la fin de l'année, il s'est mis à chuter. Là, il commence à remonter tranquillement. Mais c'est sûr que ça fait pas en sorte qu'on a des gros gains. Pour l'année passée, c'est pas une bonne année, c'est pas une extrêmement mauvaise année pour au niveau du prix, mais cette année, ça commence pas très bien.
Actuellement, il y a combien de porcs en attente, là?
Les porcs qui sont inscrits par les producteurs, ça veut dire que chaque producteur appelle et dit « Bon, ben moi, cette semaine, j'aimerais ça en sortir tant de porcs. » On est aux alentours de 135 000 porcs qui sont en attente. Je veux juste mettre un bémol à ce chiffre-là quand même, parce que c'est sûr que les producteurs ont fait preuve de beaucoup de résilience et ils mettent vraiment leurs porcs qui sont jugés vraiment au-dessus du poids normal qui devrait sortir ou qui amène un problème au niveau de leur bâtiment. On comprend qu'il y a quand même plus de porcs que ça en attente, à cause du fait que les porcs en attente commencent au poids de 95 kilos. Et quand on commence à calculer ça de 95 kilos à 122 kilos, ben on voit qu'on devrait avoir beaucoup plus de porcs en attente que ça. Mais on comprend que les producteurs ont vraiment focusé, comme on leur a demandé, sur vraiment les porcs essentiels qui devraient sortir. Comme ça, ça évite qu'il y ait des producteurs qui sortent des porcs plus légers, alors que d'autres sortiraient des porcs beaucoup plus lourds et ça amènerait une distorsion au niveau des producteurs.
Il y avait des abatteurs, entre autres Holimel, qui s'approvisionnaient en partie en Ontario. Ça, on a détourné ces porcs-là plus vers des abattoirs de l'Ouest maintenant.
Oui, oui, il y en a une partie qui est détournée, pas l'ensemble. Il y a toujours entre 10 et 14 000 porcs de l'Ontario qui viennent se faire abattre ici au Québec, mais il y a facilement entre 5 et 10 000 cochons qui sont détournés vers les abattoirs de l'Ouest, vers principalement Red Deer, ou vers des abattoirs aux États-Unis qui proviennent de l'Ontario.
Un des problèmes dont vous parliez actuellement dans la rémunération des producteurs, si on veut, là, même si les prix ne sont pas catastrophiques, il y a les coûts de production qui augmentent beaucoup avec la montée des prix des céréales. Là. Vous l'avez dit un peu rapidement tantôt, le maïs, soya, les prix ont grimpé beaucoup. Là.
C'est exactement ça. Le coût de production pour les producteurs présentement a monté assez substantiellement. On calcule à peu près que ça coûte aux alentours de 26 $ de plus pour un producteur pour produire un porc. Alors, c'est sûr et certain que ça vient impacter sa marge de profit. Et présentement, il n'y en a pas de marge de profit. Mais ça fait en sorte que le prix va falloir qu'il augmente substantiellement plus élevé que l'année passée et les autres années avant pour arriver à combler cette perte-là qu'il y a au niveau de son coût de production.
Il va falloir aussi des discussions, des ajustements avec le système d'assurance stabilisation et tout ça, là.
C'est une problématique. Il faut se pencher là-dessus. Souvent, j'ose amener le principe du NASRA 2.0, une NASRA qui aiderait les producteurs plus rapidement. Parce que vous comprendrez que moi, à partir du mois de janvier cette année, si j'ai une perte de 26 piastres du cochon et que ça perdure pendant quelques semaines ou quelques mois, ben c'est pas avant l'année prochaine, au mois de mai, que je vais avoir un règlement au niveau de l'assurance stabilisation. Alors, toute cette période-là, je la supporte dans mes liquidités et dans mes inventaires au niveau de mes bâtiments. Et ça devient des fois difficile pour les producteurs, mais je comprends qu'il y a une complexité là-dedans. Alors, c'est sûr qu'il faut se pencher là-dessus et il faut l'évaluer, qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais il faut peut-être penser à aménager, mettons, des facilités de crédit au niveau des producteurs dans des périodes comme celle-là, parce que ça devient très difficile pour les producteurs.
Parce que le temps de réaction est trop long pour l'ASRA, là.
C'est ça. Le temps est trop long et tout le monde est conscient que les producteurs ont à peu près 30 % de leur inventaire qui n'est pas vendu. Mais il va être vendu, on le sait qu'il va être vendu, cet inventaire-là, mais il y a 30 % qui conservent à l'intérieur de leur bâtiment. Alors, c'est l'équivalent des fois de 2 à 3 semaines de production qui n'ont pas été vendues. Ben, ça fait en sorte que ces producteurs-là, les banques, sont patientes, mais en même temps, il faudrait toujours avoir peut-être des fois un signal du gouvernement qui dit, regarde, on va vous aider en attendant que la situation se règle. Surtout que les producteurs, on l'a dit d'entrée de jeu, ont fait beaucoup d'actes de résilience, de créativité. Ils ont fait le nécessaire pour pas qu'il y ait d'euthanasie au niveau de leur part et qu'il n'y ait pas d'abattage humanitaire, comme on pourrait l'appeler. Ben, c'est clair que ça a amené d'autres impacts au niveau de leur ferme. Et ça, c'est d'en avoir conscience, c'est une chose. Et après ça, d'essayer d'aider, ce serait l'idéal.
Dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a quand même des producteurs là, qui, comme on dit, là, ont jeté la serviette, se sont découragés?
Je dirais que non. Je dirais que tous les producteurs à qui je parle et ceux qui appellent différents autres présidents de région, je dirais qu'ils comprennent la situation, ils comprennent que la COVID amène d'autres enjeux au niveau de la transformation et je pense qu'ils font leur maximum aussi. Hein. C'est difficile de faire de l'abattage de fin de semaine parce qu'on peut pas croiser des chips qui ont travaillé pendant la semaine, la fin de semaine. Alors, ça amène qu'il manque de main-d'œuvre la fin de semaine pour ouvrir un deuxième chiffre ou un chiffre pour faire de l'abattage de fin de semaine. Mais tout ça, les producteurs en sont conscients. Mais je dirais que c'est clair. Faut avoir une lueur au bout du tunnel. C'est ce que je m'efforce d'amener aux producteurs, de leur dire que le plan qu'on a en place présentement nous amène à une réduction des porcs jusqu'à un niveau acceptable d'ici la fin mai. en espérant qu'il n'y ait pas de bris majeur au niveau des abattoirs, en espérant qu'il n'y ait pas de grève, en espérant qu'il n'y ait pas de tempête de neige récurrente. Il y a beaucoup de mais c'est ça un plan. Des fois, on essaye de se donner un objectif, mais c'est pas toujours évident.
Pour ce qui est des marchés, la demande est quand même bonne pour la viande de porc.
Très bonne. La COVID est arrivée dans un moment où la Chine, principalement, est en grosse demande. Et la Chine, l'avantage qu'on peut y trouver, c'est qu'on est capable de fournir des pièces de viande moins découpées, moins travaillées, avec un bon revenu au niveau de ces pièces-là quand même. Alors, les abattoirs ont quand même eu la chance d'avoir ce marché-là qui a été ouvert. Les autres marchés aussi sont en demande. Il y a eu diminution d'abattage un peu partout. Ça a fait en sorte que, justement, les consommateurs ont continué à acheter et le prix au niveau de la transformation était quand même très bon aussi.
Donc, ce que vous souhaitez le plus, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se produise là, rapidement là, pour donner un coup de main là, aux producteurs? Là? Est-ce qu'on pense surtout à réduction des porcs en attente? Est-ce que c'est vraiment la mesure là, qui est prioritaire?
Ben oui. On a une rencontre à peu près à tous les 10 jours avec les dirigeants de l'IMEL pour voir comment se positionne le plan qu'on a mis en place, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi l'évaluation qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devrait faire pour atténuer certains impacts. Alors, nous autres, la priorité des priorités, c'est arriver à avoir une diminution des parts en attente d'une façon notable d'ici la fin mai. Et deuxièmement, ben, ce sera de vérifier, voir si le prix des intrants perdure. On a eu une rencontre la semaine passée avec la financière agricole. On compte en avoir d'autres pour faire d'autres suivis, pour essayer de diminuer cet impact-là qui est très négatif pour les producteurs. Alors, par la suite, ben, on se croise les doigts pour que le prix se maintienne quand même très bon. Mais la première étape, c'est vraiment de réduire au maximum nos porcs en attente.
En terminant, M. Duval, quelques chiffres là. Il y a combien de producteurs de porcs au Québec?
2800 producteurs.
Pour un volume de production de?
7 millions.
7 millions de porcs. Et si on compare là, une livraison hebdomadaire aux abattoirs, là, c'est combien de dizaines de milliers de porcs? Là?
Avant la COVID, on avait une capacité d'abattage là, aux alentours de 170 000 porcs qu'on abattait. Présentement, la semaine passée, on a abattu, et ça a été une excellente semaine, aux alentours de 155 000 porcs. Alors, c'est sûr qu'il y a un manque, là au niveau des abattages, au niveau de la capacité d'abattage. Et elle est extrêmement liée à la COVID parce que les travailleurs qui travaillent dans les usines, ben il y a des mesures de distanciation. Il y a des ouvriers qui viennent surtout d'agences qui viennent de la région de Montréal. Alors, il y a plus de problématiques au niveau de contamination, au niveau de la COVID. Mais les abattoirs, on a eu la chance d'avoir un gouvernement réactif là-dessus, qui a vite amené le secteur agroalimentaire comme un secteur prioritaire. Alors, en faisant ça, ça a fait en sorte qu'on a évité d'avoir d'autres fermetures d'abattoirs ou d'autres fermetures de différentes transformations, là. Malgré tout ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de temps supplémentaire pratiquement durant l'année, à part à Princeville, un abattoir qui avait dans ses règlements l'obligation d'avoir du temps supplémentaire, mais aussi parce que c'est un abattoir qui avait un seul chiffre de transformation, alors que les autres abattoirs, ils ont souvent deux chiffres. Et je comprends aussi que les travailleurs travaillent toute la journée avec un masque, travaillent différemment. Alors, ça amène que tout le monde est un petit peu à bout. Et je pense que la population au complet, tout le monde espérait que la vague, la deuxième vague, soit moins pire. On voit qu'elle s'éternise. Moi, je peux juste rassurer tout le monde, c'est qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Mais quand est-ce, on l'espère que d'ici cet été, ça ira beaucoup mieux.
Effectivement, on se le souhaite tous.
Oui.
Bien, M. David Duval, merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis en espérant que les choses s'améliorent le plus rapidement possible.
Parfait, je vous remercie aussi.
Ici Lionel Levac. Tout sera donc mis en œuvre pour éviter des abattages massifs sur les fermes. Dans les prochains jours, je vous présenterai une famille d'éleveurs porcins où tout le monde met la main à la pâte, je devrais plutôt dire à la charcuterie, pour bien traverser la crise de la pandémie. Au revoir.